Vous écoutez, on lit pour vous.
Des immigrés entre l'amertume et la peur suite à la poussée de l'extrême droite en France. Un texte de Estelle Aymonet, agence France-Presse, paru le 10 juin 2024 dans Le Devoir. Je ne comprends pas. La France a toujours eu besoin d'immigrés pour se développer, confie Abdoulaye Batili, employé de ménage malien installé à Paris. Au lendemain de la poussée de l'extrême droite aux élections européennes, des étrangers confient leur amertume et leur peur. La nouvelle loi sur l'immigration est déjà très dure pour nous, et c'est très compliqué de renouveler sa carte de séjour, mais ce le sera encore plus avec l'extrême droite au pouvoir, commente député M. Batili, 59 ans, dont 35 ans passés en France. Le principal parti d'extrême droite en France a recueilli 32% des voix aux élections européennes de dimanche, soit près de deux fois le score du parti présidentiel, ce qui a conduit le président Emmanuel Macron à dissoudre l'Assemblée nationale et à annoncer des législatives au risque d'amener pour la première fois par les urnes l'extrême droite au pouvoir en France. Abdoulaye Batili est inquiet de la victoire historique de l'extrême droite dont l'immigration est l'un des thèmes favoris. C'est absurde de dire qu'il y a trop d'immigrés en France. On occupe les boulots dans l'hôtellerie, la restauration, le BTP, bâtiments et travaux publics. Des métiers durs que les Français ne veulent pas faire, souligne celui qui se lève à l'aurore pour faire le ménage dans des entreprises. En région parisienne, les immigrés représentent 40 à 62 des travailleurs des branches de l'aide à domicile, de la construction, de l'hôtellerie-restauration, du nettoyage, de la sécurité et de l'agroalimentaire, selon des statistiques officielles de 2022. Le quinquagénaire dont la demande de naturalisation a été refusée dit se sentir comme un citoyen de troisième zone et réfute l'idée que les immigrés profitent des aides. Certes, il y a des salauds, mais comme parmi les Français qui sont aussi nombreux à mal se comporter. Immigration de masse. Le dimanche 9 juin 2024 au soir, après l'annonce de législatives anticipées, la chef de file de l'extrême droite française Marine Le Pen a assuré que son parti était prêt à défendre les intérêts des Français, prêt à mettre fin à cette immigration de masse. Sonia, une Algérienne qui a obtenu un titre de séjour d'un an il y a un mois, se dit aussi angoissée. « J'ai peur qu'on me renvoie dans mon pays », raconte cette femme de 38 ans, désormais en règle après 9 ans de présence irrégulière en France. Femme de ménage, mais aussi aide à domicile pour personnes âgées ou gardienne d'enfants, elle explique travailler beaucoup. Tard le soir, le week-end, je ne prends jamais de vacances. Même pendant la COVID, on faisait appel à moi, souligne cette petite fille de Harki, installée à Marseille, dans le sud de la France. On nous dit que l'on ne veut pas de nous. Pourtant, je dois refuser du travail, faute de temps, soutient cette habitante des quartiers pauvres du nord de Marseille, qui ne comprend pas trop ce qu'on reproche aux immigrés. Pays métissé. À la tête de SINGA, organisation internationale qui milite pour l'inclusion des personnes nouvelles arrivantes dans l'emploi, Benoît Hamon dénonce une vision de l'immigration basée sur des croyances selon lesquelles les étrangers vivraient sur le dos des Français et des politiques qui ne connaissent rien à la réalité des migrations. Comment va-t-on faire sans les cotisations des travailleurs étrangers pour la retraite ? Souligne l'ancien candidat socialiste à la présidentielle. Vendeur de vêtements de luxe au bon marché à Paris, Daniel Lagot, ivoirien, assure qu'il ne veut prendre la place de personne. Régularisé après 6 ans d'errance et de petits boulots, l'ancien livreur dit être inquiet pour ses frères qui n'ont pas de papier dans le cas où l'extrême droite accéderait au pouvoir. On ne quitte pas sa terre natale par plaisir. C'est parce qu'on n'a pas le choix, soutient le trentenaire, persuadé que la France soit un pays métissé et que ceux qui n'ont pas voté aux européennes se déplaceront aux législatives par rapport à cette question. C'était « Des immigrés entre l'amertume et la peur suite à la poussée de l'extrême droite en France », un texte de Estelle Aymonet, agence France-Presse, paru le 10 juin 2024 dans Le Devoir.
Une vingtaine de commerces ouvrent leurs portes en 2024. Une chronique d'André Constantin Passiour, parue le 30 août 2024 dans le magazine Fugue. Oui, vous avez bien lu. C'est 21 commerces qui se sont installés, ou vont le faire prochainement, dans le secteur du village cette année. Si vous vous promenez sur la rue Sainte-Catherine, vous avez sûrement remarqué qu'il y a eu le Tommy Café, l'ouverture de 2 restaurants coréens, d'une crêperie et d'un magasin de bière dans l'ancien local du McDonald's au coin de Papineau. Vous vous régalez des gâteaux au fromage à la japonaise? Eh bien, Soufflet comblera vos pulsions sucrées. Mais il y a bien plus que ça. Vous n'avez pas besoin d'être inspecteur à la Horacio Caine, pour ceux et celles qui se souviennent de CSI Miami, pour enquêter. Ici, les commerces ouvrent ou vont ouvrir prochainement, comme le Autin, O-T-H-Y-M, qui était sur de Maisonneuve et qui déménagera très bientôt sur le territoire de la Société de développement commercial, SDC, du village, soit sur Atateken, au sud de Sainte-Catherine. On attend aussi l'ouverture prochaine d'un cabaret-restaurant haut de gamme dans l'ancienne banque d'épargne de la cité du district, devenue la Banque Laurentienne, située au coin de Saint-Timothée et qui avait servi à des tournages de films durant quelques années. C'est vraiment une année extraordinaire au niveau du développement commercial pour le village, lance Gabrielle Rondy, la directrice générale de la SDC du village. Ça fait du bien de voir toutes ces nouvelles entreprises. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Parmi les ouvertures récentes, il y a également le Panacée sur Atateken, qui occupe le local de l'ancien Aperitivo près de la rue Robin. C'est un tout nouveau restaurant gastronomique qui attirera une nouvelle clientèle qui viendra des autres quartiers. La chef reconnue, Catherine Couvet-Desrosiers, est à la barre de ce restaurant. Le Tommy Café est aussi un bon exemple de la relance du village qui est en cours. La Bannière a déjà plusieurs restaurants à Montréal, notamment dans le Vieux-Montréal, et les propriétaires ont choisi le village pour installer leur nouveau café. Le village est une belle opportunité d'affaires, puisqu'il y aura des développements immobiliers au cours des prochaines années, de nouvelles constructions qui ramèneront une population importante qu'il n'y avait pas avant. On le voit déjà, d'ailleurs, comment le Tommy Café est un très beau succès, et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres en ce moment. De souligner, Gilles Paquette, responsable du service aux membres à la SDC du village. À un tout petit jet de pierre de là, le Paella a fait peau neuve. Si à l'adresse 1326 Sainte-Catherine-Est, ce resto de cuisine espagnole avait subi des dommages majeurs après un incendie de la bâtisse, c'était en octobre 2021. Depuis, la famille a voulu rouvrir dans le village et s'est installé à 2 portes de l'ancien édifice dans un local qu'ils ont rénové parce qu'ils aiment ce secteur et la clientèle. Ils ne désiraient pas ouvrir un commerce ailleurs. C'est une très bonne nouvelle, de poursuivre Gilles Paquette. Pour plusieurs, ce sont des bâtiments qui étaient vacants depuis plusieurs années et qui sont maintenant occupés. On parle ici de 21 commerces qui ont ouvert ou qui vont ouvrir, et ce, depuis le début de l'année 2024. Mais malheureusement, ce que les gens voient, ce sont les grands bâtiments qui sont laissés à l'abandon, comme l'ancien drugstore ou encore la station C, qui a abrité jadis les clubs KOX ou encore l'Apollon. Ils sont massifs, donc on les aperçoit plus. Mais, en général, il y a un engouement en ce moment pour ce secteur-ci, affirme Gabrielle Rondy. Celle-ci prend en exemple le resto Hautain, qui déménagera ses pénates dans une plus grande surface sur Atateken et qui pourra bénéficier d'une belle terrasse en été, ce qu'il ne pouvait pas faire sur de Maisonneuve en raison de la piste cyclable. C'est une belle offre pour la clientèle du Hautain. À quelques pas de ce nouveau resto, l'ancien Wad Sport est en rénovation. Ce local va revivre avec un projet qu'on ne peut pas vous dévoiler pour l'instant. Les travaux de rénovation ont commencé, d'ailleurs. Donc, on voit bien que ça bouge, qu'il y a une certaine vitalité dans ce coin-là aussi, rajoute Gilles Paquette. Et non loin de là, un peu au nord de Sainte-Catherine, quelque chose de particulier a fait son apparition un peu plus tôt cette année, soit le Hungry Ghost. Vous allez me demander, qu'est-ce que c'est qu'un fantôme affamé? Eh bien, c'est un nouveau concept de restauration où l'on partage le local en offrant, ici, une cuisine indienne variée, Spice Aroma, et une autre, asiatique, Bon Dumplings. Sans salle à manger, donc les commandes se font en ligne pour livraison ou pour emporter. Dans cette liste, on peut nommer également le tout dernier, le Poké Station, juste au coin de Montcalm. Un peu plus haut, sur la même rue, l'épicerie Fulson offre depuis le début de l'année des banh mi, sandwich vietnamien, du café, des nouilles ramen et des produits d'épicerie asiatique. Le coin Papineau se développe aussi, en plus de la Maison des bières, avec toute sa sélection de bières de microbrasserie. De l'autre côté de la rue, on retrouvera le Clubhouse TLC pour tous les chiens, soit un service de toilettage pour chiens qui ouvrira prochainement. Vous écoutez? Une vingtaine de commerces ouvrent leurs portes en 2024. Une chronique d'André Constantin, Patio, paru le 30 août 2024 dans le magazine Fugue. Mais ce n'est pas tout. On sait qu'il y aura un immeuble de logement de Mondev et une épicerie Maxi qui devrait ouvrir en 2025. Mais si on pousse un tout petit peu plus loin, on a l'esplanade quartier qui se développe au coin de Delormier avec ses habitations, mais là encore, on va trouver des commerces qui vont favoriser le magasinage et attirer la clientèle qui, en retour, voudra se restaurer dans le village, venir prendre un verre, manger quelque chose. Donc, c'est quelque chose de positif pour le village, insiste ici Gabrielle Rondy. Toutefois, ce n'est pas qu'au niveau du sol que les choses évoluent. On oublie qu'il y a des entreprises qui investissent les deuxièmes étages. Les studios Uplift 514, des studios de danse, se sont installés au-dessus du bar Le Stud. Ce type d'entreprise est vraiment bénéfique pour le village, puisque leur clientèle va revenir fréquemment dans le secteur et peut-être en profiter pour aller au restaurant, à l'épicerie, à la pharmacie, au salon de coiffure, etc. Puis, au deuxième étage du restaurant indien Tabla, ça bouge là aussi, puisqu'un studio de production de jeux vidéo y fait son apparition, explique Gilles Paquette. En ce moment, nous en sommes à 87,4% du taux d'occupation des commerces, poursuit Gilles Paquette, dont la connaissance sur ce qui se développe dans le village est effarante. Nous sommes donc en dessous du 13 % d'inoccupation pour des commerces au rez-de-chaussée, au niveau de la rue. Le village se situe en fin de compte même en dessous de la moyenne d'inoccupation de ville, qui est de 13,4 % et de la moyenne du centre-ville même, selon les données que nous avons. Vers l'ouest, il ne faut pas oublier que le promoteur immobilier Mondev a finalement obtenu son permis de démolition des anciens édifices qui abritaient, entre autres, l'iconique restaurant Da Giovanni. Ça va bouger aussi dans le secteur de la place Émilie-Gamelin. Il y aura de nouveaux résidents et plusieurs commerces au rez-de-chaussée, indique Gabriel Rondy. Dans le même coin, la place du Puy, il ne faut pas sous-estimer l'installation d'une partie de la faculté de médecine de l'Université de Montréal qui apportera avec elle des centaines d'étudiants. Encore là, une nouvelle clientèle qui s'ajoute dans le village. Peut-être même qu'il se passera quelque chose dans l'ancienne station des sports. On ne sait pas, mais cet afflux de clientèle fera du bien. Ici, le projet de Mondev signifie plus de 200 logements. Il y en aura plus du double lorsque Mondev construira la deuxième tour du côté sud-est du Saint-Hubert. Une fois la troisième phase complétée, 700 logements seront ainsi construits d'ici quelques années dans le secteur Émilie-Gamelin, place du Puy. Les gens sont tellement habitués au négatif et à tout ce qui va mal dans le village qu'ils ne réalisent pas qu'il y a du positif qui se crée en ce moment et qui est survenu depuis le début de l'année, souligne à gros traits Gilles Paquette. Lorsqu'on parle de projets immobiliers et des développements, ce sont 14 projets résidentiels et 2 de conversion de bureaux à logements qui seront construits ou aménagés dans les prochaines années. Ce seront de 20 000 à 25 000 nouveaux résidents qui s'installeront dans le quartier, de renchérir la directrice générale de la SDC du village. Ces gens auront besoin de plusieurs commerces de vêtements, de souliers, etc. Donc, il y a encore de la place pour de tels commerces de détail. En décembre 2023, la SDC a reçu les résultats d'une étude sur le potentiel de développement commercial du village réalisé par Raymond Chabot Grant Thornton et soutenu financièrement par la Ville de Montréal dans le cadre de son programme de soutien au SDC. La mauvaise variété des commerces et des restaurants se classe dans le top 5 des raisons pour lesquelles les gens ne fréquentent pas le village. Les restaurants et les cafés arrivaient en tête des types de commerces souhaités par la clientèle pour le village. Alors, avec toutes ces nouvelles entreprises qui ont ouvert cette année, c'est vraiment un pas immense dans la bonne direction pour redonner envie aux gens de fréquenter le village, de venir le découvrir ou le redécouvrir, ajoute Gabriel Rondy. Dans l'étude économique effectuée l'an dernier, on avait retenu également qu'il manquait d'initiatives destinées aux communautés trans et non-binaires, ainsi que racisées, qui souhaiteraient fréquenter le village, mais qui aimeraient voir plus d'offres commerciales, communautaires et culturelles pour elles. On désire mettre en valeur ces groupes des communautés 2SLGBTQIA+. On espère qu'il y aura plus d'initiatives en ce sens. Les gens qui voudront créer ce type de commerce pourront obtenir l'appui du fonds de la ville destiné au village et à la communauté. 2SLGBTQIA+, dont un premier appel à projet est prévu dès cet automne, dit Gabriel Rondy. S'il s'agit aussi de rénover un local, on peut les guider et les aider, puisqu'il y a le programme de subvention pour la rénovation de commerce de la ville. Cela peut être intéressant de rajouter le responsable du service aux membres à la SDC du village qui invite les entrepreneurs qui souhaiteraient s'installer dans le village à communiquer avec la SDC. Et on termine avec une autre bonne nouvelle. Ouvrez l'œil dans l'Est, puisqu'un bâtiment laissé à l'abandon depuis au moins une bonne dizaine d'années, a reçu son permis de rénovation. Ça bouge dans le village. C'était « Une vingtaine de commerces ouvrent leurs portes en 2024 ». une chronique d'André Constantin Passiour, parue le 30 août 2024 dans le magazine Fugue.
La course en sentier n'a pas d'âge. Un texte de Simon Diotte, paru à l'automne 2024 dans le magazine Virage. La course en sentier séduit de plus en plus de gens à la recherche d'une forme d'entraînement en pleine nature. Et ce n'est pas parce que vous avez plus de 50 ans que vous ne pouvez pas vous aventurer dans le bois, bien au contraire. Depuis 2021, Denis Fontaine, 55 ans, n'est plus le même homme. Avant cette année fatidique, il souffrait d'embonpoint, ne mangeait pas très bien et se levait continuellement sur son divan. « J'étais un champion de la sédentarité », avoue-t-il. Un jour, il décide de changer de vie. Cet employé d'un centre de distribution opte pour la course à pied dans le but de reprendre la forme. Rapidement, il a la piqûre. En plus de battre le pavé, il part régulièrement courir dans les sentiers en montagne. Le parc national du Mont-Saint-Bruno et le Mont-Saint-Hilaire deviennent ses terrains d'entraînement. « J'adore courir avec la brise dans les feuilles comme bande sonore », explique-t-il. 4 ans après ce tournant dans sa vie, non seulement il court des marathons sur route, mais il participe aussi à des ultra-marathons en sentier, soit des courses de plus de 42,2 km en nature. Qui plus est, ce Boucher-Villois a perdu plus de 50 livres en courant et en faisant plus attention à son alimentation. « Et tous mes proches me disent que je suis maintenant de bien meilleure humeur », affirme-t-il, fièrement, pendant que sa femme approuve au loin. Le vent en poupe. Pratique à peu près inexistante au Québec il y a une quinzaine d'années, la course en sentier, qu'on appelle communément du « trail running », a actuellement le vent en poupe. Cette déclinaison de la course à pied profite de l'engouement général pour les entraînements en tout genre. Résultat, les événements de course en sentier deviennent de gigantesques fêtes, attirant des milliers de personnes comme le Québec Mega Trail, qui se tient début juillet sur la côte de Beaupré, et l'Ultra Trail Arikana du Canada, qui a lieu début septembre dans les montagnes de Charlevoix. Des distances de 1 km à 160 km attirent les coureuses et coureurs des bois qui chassent les kilomètres plutôt que le gibier. À preuve, le nombre d'adeptes qui participent aux événements québécois de course en sentier a explosé de 60% entre 2014 et 2023 pour atteindre 24 738 personnes selon les statistiques d'Athlétisme Québec. Et ce n'est pas juste les genoux qui découvrent le plaisir de courir dans le bois. Par exemple, au Québec Mega Trail, le nombre de 50 ans ou plus a quadruplé en 7 ans, passant de 122 à 470 inscriptions. La nature, autrement. Si les maniaques comme Denis Fontaine sont légion, la course en forêt attire aussi des gens qui cherchent simplement à bonifier leur sortie en nature. C'est le cas d'Annie Hébert, une mère de famille de 51 ans, qui voit surtout la course en nature comme une façon de randonner plus vite. Beaucoup de gens pensent que la course en sentier est un sport extrême. Or, il faut savoir que les coureurs marchent dans les montées. Pour moi, la course en sentier me permet de parcourir plus de distance et de profiter de plus de points de vue en une seule sortie, dit cette Montréalaise qui possède un pied-à-terre dans les cantons de l'Est. Courir en sentier plutôt que sur la route fait aussi oublier la difficulté de maintenir le rythme. Pour moi, il est beaucoup plus facile de courir une heure en sentier qu'une demi-heure sur route. Dans la nature, on perd la notion du temps. On regarde moins sa montre, dit Annie Hébert. Pour les débutants en course, le fait de courir en forêt est également moins intimidant. On sent moins le regard des autres. On peut aller vraiment à son rythme, remarque Marie-Lou Ferland-Daigle, coordonnatrice course sur route et trail à Athlétisme Québec. D'autres apprécient l'esprit de camaraderie qui règne dans cet univers. Dans un événement de trail running, les gens s'entraident, prennent le temps de jaser. Ça crée vraiment une belle ambiance, dit Vincent Magnan, un Montréalais père de grands enfants qui a participé à sa première course officielle en sentier à 52 ans. Bon pour le corps et l'esprit. Survoler les sentiers ponctués de racines, de boue et de roches après 50 ans, représente-t-il un risque? Selon le physiothérapeute Jean-Maxime Caron, directeur de la clinique Physio-Extra du Plateau Mont-Royal, cette question mérite une réponse nuancée. Si vous êtes complètement sédentaire, vous avez intérêt à consulter votre médecin pour un bilan de santé avant de commencer. Dans le cas contraire, vous pouvez y aller sans crainte, mais graduellement. Le spécialiste de la course à pied suggère aux néophytes de commencer à courir dans des parcs urbains, en alternant course et marche. Plus vous progresserez, plus vous pourrez ajouter du dénivelé, dit-il. Chaque séance doit s'amorcer par un échauffement actif. Balancement des pieds, talons-fesses, marche rapide, etc. Il est important de ne pas étirer les muscles à froid, précise-t-il, et chaque sortie se termine par une récupération de 5 minutes, soit une période de retour progressif au calme. Rapidement, vous allez ressentir les bienfaits de l'activité physique. L'avantage de la course en sentier, c'est que les nombreux changements de direction font travailler un plus grand nombre de muscles que la course sur route. Cette différence réduit le risque de blessure de surutilisation, affirme le physiothérapeute. La course renforce aussi les os et les cartilages, agissant en prévention contre l'arthrose. En bonus, toute forme d'activité physique réduit les risques de problèmes cardiaques. Je recommande aux gens de 50 ans et plus de combiner la course avec des exercices de renforcement musculaire. C'est plus efficace de courir 3 fois par semaine et de compléter avec du renforcement musculaire que de courir 7 fois par semaine, explique ce physiothérapeute. Maintenant, c'est l'heure de filer sur les sentiers. Ciao, bye! C'était La course en sentier n'a pas d'âge, un texte de Simon Diotte, paru à l'automne 2024 dans le magazine Virage.